France Inter.
France Inter, il est 13h. Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'animatrice, les patrons et les paysans, la grande distribution réunie par Karine Le Marchand ce matin au Salon de l'Agriculture. Tout cela pour décrocher de meilleures prix agricoles. Au-delà de la com, il y a-t-il des avancées? Nous verrons cela. L'argent des Français, davantage dépensé par carte bancaire qu'en espèces l'an dernier. C'est une première dans notre pays. Pas question pour autant de supprimer pièces et billets. Nous serons à Lyon dans quelques minutes. Alors qu'à Marseille, on en sait plus sur les jets de bouteilles de soda sur le consulat russe en début de semaine. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour à tous.
On connaît le profil des deux hommes interpellés.
Oui, un ingénieur et un chimiste, deux chercheurs français du CNRS qui seront jugés demain pour avoir lancé dans les jardins du consulat russe ces bouteilles en plastique remplies d'un cocktail artisanal explosif.
A tout de suite pour vos précisions. Elle est très rare pour l'instant. La parole des parents des enfants victimes d'agressions sexuelles à Notre-Dame de Bétharram. Témoignage dans quelques minutes. Nous serons également en Israël dans ce 13-14. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Vous suivez les obsèques de Shiri Bibas et de ses deux enfants. Ce matin, le convoi funéraire est accompagné par une foule compacte.
Oui, moment de recueillement, d'hommage au Bibas, évidemment, vous l'imaginez. Mais aussi, comme nous l'a dit l'un de ceux que l'on a vu ce matin, un moment en quelque sorte d'étreinte collective.
Cette famille otage du Hamas pendant plusieurs mois, on va vous retrouver dans quelques minutes. Simon Le Baron en direct d'Israël. Les sorties cinéma de ce mercredi avec Alexis de Meyer, ce sera dans une vingtaine de minutes. Et puis à partir de 13h30, l'une de nos grandes championnes avec nous. Elle fut la première à remporter la Ligue des champions de football comme joueuse puis comme entraîneur. Sonia Bonpastor raconte sa vie de foot dans un livre 01 45 24 7000 pour être avec nous. 13h50, c'est la France. À qui appartiennent nos montagnes et plus largement la nature? Patrice Trappier du 1 Hebdo s'interroge. Et puis juste avant 14h, le comédien Marc City, Prince et Frédéric Pommier dans C'est une chanson. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Elle n'est pas ministre de l'Agriculture, mais c'est pourtant le rôle qu'elle a endossé ce matin au salon Porte de Versailles à Paris. L'animatrice de télévision Karine Le Marchand a réussi à réunir autour d'elle quelques-uns des grands patrons de la distribution française. Super U, Intermarché ou encore Auchan, à l'exception notable de Michel-Édouard Leclerc qui lui a décliné. Objectif de l'égérie des agriculteurs, les aider à mieux écouler leur production. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Vous êtes au salon pour Inter, vous allez nous dire dans une minute si tout ça débouche sur du concret. Décrivez-nous d'abord cette rencontre étonnante.
Ah bah l'ambiance était très détendue. Ce matin, tous les acteurs étaient sourire aux lèvres, bien affichés devant les caméras et les appareils photo, tout comme les embrassades avec Karine Le Marchand, un moyen de montrer de l'unité. Dès le début, l'animatrice a, elle, répété vouloir agir pour aider les agriculteurs et a fait passer un message.
Il ne se passe rien. Donc à un moment donné, on ne va pas attendre que les politiques fassent quelque chose. Moi, je n'y crois pas.
Si certains patrons de la grande distribution ont souligné l'exploit de les réunir en même temps autour d'une table, il manquait quand même le numéro 1, Michel-Édouard Leclerc. Question posée par un journaliste sur son absence, un peu de flottement, puis Thierry Cotillard pour les Mousquetaires se lance.
Il n'est pas là ce matin, ils seront là demain.
Puis Karine Le Marchand enchaîne sur un autre ton.
Les consommateurs en tireront les conséquences, point barre.
Le message est bien reçu. Au-delà de la com, Luc, est-ce que ça va changer quoi que ce soit pour les producteurs?
Alors, trois initiatives ont été présentées, dont une qui se veut très concrète pour aider les petits producteurs en difficulté économique et qui ont deux salariés maximum. Elle est détaillée par Dominique Schelcher, dirigeant des coopératives U.
On va leur ouvrir les portes de l'ensemble des magasins des enseignes participantes pour écouler en direct, sans intermédiaire, leur production et au prix qu'ils vont eux-mêmes fixer. On ne discutera pas ce prix.
Pas de critères économiques définis pour choisir ceux en difficulté, ils doivent juste s'annoncer. Autre initiative, un observatoire pour évoquer l'avenir des différentes filières et aussi la mise en place d'une collaboration avec des médias pour aider les agriculteurs en cas de surproduction. Dans les allées du salon, certains producteurs voient ces annonces d'un bon œil.
C'est bien que des personnes qui ont de l'audience parlent des problèmes du monde agricole.
Ça paraît toujours être une bonne initiative de défendre des producteurs et de mettre en place les choses qu'il faut.
D'autres comme Floriane, productrice de fromage de chèvre en Haute-Loire, sont plus mitigées.
Je ne sais pas si on a vraiment besoin d'avoir des gens pour nous défendre en fait. Je pense qu'on est suffisamment grand pour se défendre nous-mêmes, il n'y a pas forcément besoin de porte-parole.
De son côté, l'Association nationale des industries alimentaires dénonce un coup de communication.
Merci Luc Chemla, avec les moyens techniques de Benjamin Reyes en direct du Salon de l'Agriculture. Vous nous parliez de Karine Le Marchand. L'animateur de C8, Cyril Hanouna, lui a présenté des excuses hier soir en direct, reconnaissant, je cite, que des informations fausses avaient été diffusées à son encontre dans son émission TPMP. Sa chaîne C8 va fermer vendredi après que l'ARCOM a décidé de ne pas reconduire sa fréquence, considérant qu'elle avait manqué à de très nombreuses reprises à ses obligations. Toujours au rayon écho, nous parlions de la grande distribution il y a un instant. Cette bascule historique dans notre pays, bien qu'attendue. L'an dernier, les Français ont davantage payé par carte bancaire qu'en liquide dans les commerces. 48% des paiements par carte contre 43% en espèces. Même si les Français restent très attachés à leurs pièces et billets, ils sont une très large majorité à vouloir continuer à s'en servir. Illustration ce matin dans ces commerces de Lyon, 5e arrondissement. Christophe Vincent.
Dans tous les commerces alimentaires, le constat est unanime. On paye plutôt par carte. Steven Bonnefoy est boucher à Saint-Just.
Même pour des sommes en dessous de 5 euros, les gens n'ont vraiment plus d'espèces sur eux. 90% des sommes payées, c'est en carte bleue quoi, aujourd'hui. C'est marrant, même les soixantenaires payent encore plus avec les téléphones, avec les montres, etc. que les jeunes. De toute façon, il y a tout qui est fait pour qu'on ait plus d'espèces aujourd'hui. J'ai été dans un bar il n'y a pas longtemps qui n'accepte plus du tout les espèces. C'est le nouveau monde.
À la boulangerie, le monde d'avant garde ses adeptes.
J'ai pas besoin de carte et je fais pas de gros achats, donc pour l'instant le liquide ça suffit.
Je me sers des deux, mais quand je travaille, je suis payée en liquide par exemple. Du babysitting, ce genre de choses.
J'essaye de revenir un peu au liquide parce qu'en fait je pense que je maîtrise plus mes dépenses comme ça. Donc je retire une somme et j'essaye de faire la semaine avec la somme.
Ce retraité défend farouchement les espèces.
Au marché, il y a beaucoup encore de commerçants, surtout les petits producteurs, qui ne prennent pas la carte. Et imaginez quand on supprime ça, le travail au noir, tout ça, c'est fini. Votre cannabis, vous payez en carte, bon, ça viendra. Hein. Je vois encore beaucoup de personnes qui ont mon âge qui n'ont pas de carte bleue. Il faut les laisser mourir. Eh ben oui, il y en aura pour 20 ou 30 ans encore.
Et il ajoute, la monnaie existe quand même depuis 2700 ans.
Reportage à Lyon, Christophe Vincent. La protection des consommateurs, c'est l'une des prérogatives de l'Union européenne. Mais en la matière, la Commission européenne en a-t-elle trop? A-t-elle adopté trop de règles au détriment notamment des entreprises? C'est le cas, si l'on en croit le commissaire européen Stéphane Séjourné, qui a dévoilé plusieurs propositions ce matin pour simplifier ces règles et rendre nos entreprises plus compétitives. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Fabien, dans le détail, de quoi s'agit-il? Quelles mesures vont être supprimées ou assouplies?
Alors d'abord, il y a la directive qui oblige les entreprises à publier des rapports sur l'impact social et environnemental de leurs activités. Elle ne concernera finalement que les entreprises de plus de 1000 salariés. Les PME pour qui cette obligation devait entrer en vigueur à partir de l'année prochaine en seront finalement exclues. Elles basculent dans un régime de volontariat. Le deuxième grand texte hérité de la précédente mandature est celui qui impose aux multinationales un devoir de vigilance vis-à-vis de leurs sous-traitants. Là, c'est un report d'un an qui a été décidé pour l'obligation faite aux États membres de transposer cette directive dans leurs droits nationaux et donc report d'un an aussi avant qu'elle ne s'impose en 2029 à l'ensemble des entreprises. Simplification à signaler enfin pour ce qui concerne ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ce sont en fait les pénalités que payent les entreprises qui importent par exemple du ciment, des engrais ou encore de l'acier hors d'Europe lorsque ces produits ont été fabriqués là-bas en utilisant trop d'hydrocarbures, les obligations déclaratives seront là aussi allégées.
Y a-t-il déjà des réactions, Fabien? On sait que notamment les défenseurs de l'environnement craignaient que le Green Deal européen ne soit sacrifié.
Oui, alors le commissaire européen en charge de ces dossiers, Stéphane Séjourné, se défend, lui, de tout détricotage des ambitions écologiques du pacte vert conclu sous la précédente mandature.
Ça serait vrai si on revenait sur nos objectifs. Et c'est pas le cas. On a toujours les objectifs qui sont toujours les mêmes. On ne propose pas de déréguler, mais on se propose de changer les procédures pour arriver à ces objectifs.
Pas de quoi éteindre les inquiétudes des syndicats. Thomas Missen de la centrale belge CSC s'inquiète en particulier pour le devoir de vigilance envers les sous-traitants.
On a eu pendant 20 ans des déclarations de grandes multinationales et d'autres en disant « laissez-nous faire de manière volontaire, on va gérer ça ». Or, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Pas encore aujourd'hui, vous achetez un ordinateur, vous achetez un pantalon, vous ne savez pas si il a été produit de manière décente.
4 autres textes de simplification administrative sont attendus à Bruxelles d'ici la fin de l'année.
Merci Fabien Cazot, correspondant d'Inter à Bruxelles. Combien d'enfants ont eu à subir des violences physiques et sexuelles au sein de l'école Notre-Dame de Bétarame, près de Pau? Ce matin, le collectif des victimes annonce qu'il va déposer 40 nouvelles plaintes, ce qui en fait selon lui désormais 152 dans ce dossier. Le parquet de Pau a ouvert une information judiciaire. Un ex-surveillant général de cet établissement catholique a lui été mis en examen et placé en détention provisoire. Alors les victimes ont créé un collectif pour se faire entendre, mais les parents d'anciens élèves également. C'est le cas d'Annie, 67 ans, son fils est aujourd'hui âgé de 42 ans et il lui a raconté, il y a quelques mois, le cauchemar que fut sa scolarité. Najet Essadou qui l'a rencontré.
C'est seulement en juin dernier qu'Annie apprend ce que son fils a vécu en 1993.
En voyant des photos anciennes qui dataient de 92, il s'est effondré et m'a dit « Tu vois maman, ça c'était le temps du bonheur, avant que j'aille à Bétarame. »
Son fils unique ne lui avait jamais rien dit.
Il s'est tu pendant 28 ans.
Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement ?
Il a été violé. C'est toute sa vie qui a été bousillée.
Elle comprend mieux les années de mal-être de son fils.
Une dépression, une addiction à l'alcool, aux drogues.
La mère de famille se souvient de choses qui auraient dû l'alerter.
Un jour, on frappe à ma porte à 7h du matin. C'était mon fils qui s'était échappé de Bétarame. C'est 28 km de Pau. Ils étaient rentrés à pied dans la nuit avec deux copains. J'ai peut-être même dû l'engueuler. Mais il ne m'a rien dit, il ne m'a pas dit pourquoi. Je n'ai pas creusé le sujet à l'époque.
Elle n'est pas la seule à n'avoir rien vu.
Mais le médecin non plus. Je notifie au médecin qu'il se plaignait de douleurs anales. Là, il me dit, mon fils, mais t'as pas percuté ce qui m'arrivait. J'ai dit non. Pour moi, c'était inimaginable. Je pense qu'il y a encore des familles qui ne veulent plus en entendre parler parce que ça remue trop de douleurs. Ça détruit des tas de familles. Cette douleur des victimes, c'est aussi la douleur des familles. Il y a des familles qui ne croient pas que c'est arrivé, quoi.
Des familles, pour certaines, toujours dans le déni.
Un reportage ici, Béarn Bigorre, une affaire qui provoque d'autres signalements concernant d'autres écoles de la région. Des témoignages mettent notamment en cause un collège privé de Dax pour des faits qui auraient été commis il y a près de 60 ans. Là, c'est un phénomène tout à fait actuel. Ces jeunes filles qui vont sur les réseaux sociaux et y discutent avec des hommes plus âgés. On se souvient de Morgane, cette jeune bretonne de 13 ans qui avait disparu 2 semaines en décembre avant d'être retrouvée chez un homme de 21 ans depuis mise en examen pour viol. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Hier, c'est en Alsace qu'une jeune fille de 11 ans, Chloé, a disparu. Elle a finalement été retrouvée avec un homme de 18 ans, mais loin de chez elle, en région parisienne.
Oui, on ne sait d'ailleurs pas comment la jeune fille a quitté l'Alsace, si c'est par ses propres moyens qu'elle est partie rejoindre un homme avec qui elle était en contact depuis peu sur les réseaux. Je précise que selon la gendarmerie, Chloé est en apparence en bonne santé, qu'on n'a pas d'indication d'éventuelle violence sexuelle. Sa famille avait signalé sa disparition hier après-midi à Dütlenheim, à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg, après ne l'avoir pas trouvée à la sortie de l'école. Elle est en CM2. Un appel à témoins est relayé sur les réseaux. Ses amis apportent des renseignements aux gendarmes. Les recherches permettent de la localiser à Bondy, en Seine-Saint-Denis, où la police intervient peu avant minuit. Le père de Chloé a partagé sa joie et a annoncé qu'il était parti chercher sa fille. Elle était en compagnie donc d'un jeune homme de 18 ans sans antécédent judiciaire qui a été interpellé et qui est en garde à vue. Le parquet de Saverne a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration.
Sarah Guibaudot, toujours dans ce département de Seine-Saint-Denis, un homme porteur de couteau a été tué par la police ce matin sur la commune de Dugny. Il se trouvait à un arrêt de bus et à l'arrivée des policiers, il s'est jeté sur eux, indique la préfecture. Le pistolet électrique de l'un des policiers n'a pas fonctionné, alors un autre a ouvert le feu. Une enquête est ouverte. C'est donc la prison de Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon, qui a été choisie pour la détention de Mohamed Amra, désormais le narcotrafiquant le plus surveillé de France. Après une évasion meurtrière, 9 mois de cavale et une arrestation samedi en Roumanie, il a été remis hier soir aux autorités françaises qui comptent le surveiller comme le lait sur le feu. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
C'est ce qu'a assuré ce matin le ministre de la Justice, Gérald Darmanin.
Oui, une surveillance par les gardiens 24 heures sur 24 au quartier d'isolement dans des conditions très strictes, détaillées tout à l'heure par Gérald Darmanin.
Il aura le droit à 1 heure de promenade par jour, seul, sans jamais croiser un autre détenu. Il aura le droit à 2 heures de communication téléphonique écoutée par les services de renseignement. Il aura le droit à 3 visites par semaine, extrêmement contrôlées, avec des fouilles systématiques.
Alors l'objectif évidemment est d'éviter une nouvelle évasion, mais aussi les pressions sur les éventuels témoins à l'extérieur de la prison. Et au-delà de ce cas, celui de Mohamed Amra, c'est aussi une sorte de test pour la future prison de haute sécurité que dit vouloir créer le ministre de la Justice, où incarcérer les trafiquants considérés comme les plus dangereux. Gérald Darmanin doit dire la semaine prochaine quel établissement sera choisi. 4 possibilités, donc Condé-sur-Sarthe, Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, Saint-Maur dans l'Indre et la prison d'Arles. Le garde des Sceaux veut aussi profiter de l'arrivée de la loi narcotrafique à l'Assemblée la semaine prochaine pour mettre en place un régime de détention qui permettrait d'éviter d'extraire ces détenus, favoriser notamment les visioconférences, puisqu'on rappelle que c'est en allant chez le juge d'instruction que Mohamed Amra s'est évadé. Or, à ce stade, nous ne sommes pas capables de garantir que ça ne se reproduise pas, a admis ce matin le ministre.
Merci Ariane Grissel. Gérald Darmanin qui participe cet après-midi avec une partie du gouvernement à un conseil interministériel de contrôle de l'immigration sur fond de tension avec l'Algérie. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, propose d'ailleurs que tous les pays européens en même temps puissent restreindre leur délivrance de visa quand un pays hors de l'Union ne coopère pas pour reprendre ses ressortissants, comme c'est le cas de l'Algérie selon les autorités françaises. L'Algérie qui fait part ce matin de son étonnement. À Marseille, c'est la surprise à la découverte du profil des deux hommes qui ont été arrêtés avant-hier après avoir lancé des bouteilles de soda dans l'enceinte du consulat russe de la ville. Des bouteilles qui ont ensuite explosé. Mathilde Vincenot, on vous retrouve à Marseille. Il s'agit de deux chercheurs du CNRS, un ingénieur et un chimiste.
Oui, deux chercheurs du CNRS de nationalité française, précise le parquet. Ils ont été interpellés le soir même des faits lors d'un rassemblement de soutien à l'Ukraine organisé devant la mairie de Marseille. En garde à vue, ils ont reconnu avoir lancé vers 7h30 lundi matin 3 bouteilles en plastique dans les jardins du consulat de Russie. Des bouteilles de soda avec à l'intérieur un mélange artisanal, un cocktail composé d'azote et d'autres substances chimiques. Sur les 3 bouteilles lancées, 2 ont éclaté, provoquant des détonations qui n'ont fait ni dégâts ni blessés, mais pendant plusieurs heures, l'avenue où se trouve le consulat de Russie a dû être bouclée pour permettre l'intervention des démineurs. Les deux chercheurs ont motivé leur acte dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine, indique le procureur de Marseille. Ils seront jugés demain en comparution immédiate pour dégradation du bien d'autrui par moyen dangereux et fabrication non autorisée d'engins explosifs ou incendiaires, des faits passibles de 10 ans de prison.
Mathilde Vincenot en direct de Marseille. À Avignon, les transports en commun sont à l'arrêt depuis ce matin. Pas de tram et pas de bus après l'agression d'un chauffeur hier soir. Selon les syndicats, un voyageur lui a donné plusieurs coups de poing. Les conducteurs exercent leur droit de retrait. Devant la cour d'assises spéciale de Paris, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté incompressible, requise ce matin à l'encontre de Brahim Aouissaoui. C'est le procès de l'attentat terroriste de la basilique de Nice en octobre 2020 qui avait fait 3 morts. Lui a été blanchi par la justice. L'ancien député et patron d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, était visé par 2 plaintes de son ex-compagne pour harcèlement moral et abus de faiblesse. La députée écologiste Sandrine Rousseau avait révélé cette affaire qui avait ensuite contraint Julien Bayou à se mettre en retrait de la vie politique. Aujourd'hui, ces plaintes ont été classées sans suite pour absence d'infraction et Julien Bayou demande des comptes à son parti, mais aussi à Sandrine Rousseau. Il était ce matin l'invité d'Inter.
Moi, ce qui me chagrine, c'est de voir un parti, les écologistes, j'ai le plus grand respect pour les militants écologistes, évidemment, mais de voir un parti, les écologistes, qui est sous l'emprise, finalement, de Sandrine Rousseau, qui accuse, qui, quand elle accuse, elle dit bah, « j'attends en fait qu'il y ait une enquête privée ». Quand il y a une enquête privée, elle dit « non, j'attends la justice ». Et quand la justice dit « enfin, il est blanchi », elle dit « ça ne me va pas ».
Elle dit « j'attends la politique ».
Et donc, qui décide, vous voyez, si ce n'est pas vous, si ce n'est pas moi, si ce n'est pas le juge, si c'est uniquement Sandrine Rousseau. C'est pour ça que moi, j'aspire à ce que je puisse tourner la page. Mais je pense qu'il y a un précédent à refuser. C'est tout simplement absolument dangereux. Quand la réalité contredit Sandrine Rousseau, c'est la réalité qui a tort.
Julien Bayou qui répondait à Léa Salamé.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Des milliers d'Israéliens massés le long d'une route ce matin, celle empruntée par le cortège funéraire des dépouilles de 3 membres de la famille Bibas. Shiri, la mère et ses 2 fils, Kfir et Ariel, âgés de 8 mois et demi et 4 ans, au moment de leur enlèvement dans leur kibboutz de Niroz, c'était le 7 octobre et depuis, tués durant leur captivité à Gaza. Simon Le Baron, on vous retrouve sur place, vous suivez ce cortège, émotion considérable en Israël et donc le long du parcours, une centaine de kilomètres.
Oui, et quand passent les trois véhicules noirs au ruban jaune, le symbole des otages, soudain le silence se fend. Leslie tient dans ses bras la première de ses petites filles. Elle explique qu'elle a accouché il y a quelques jours, que son bébé est chez sa mère. Puis elles font en larmes. Comment peut-on faire ça à un enfant ? Partout, du bleu ciel et du blanc, ces couleurs que Marom porte sur le dos.
Ici, on aime porter le drapeau. C'est comme si c'était le pays qui nous enveloppait. D'ailleurs, quand les otages sont revenus, on leur a tout de suite mis un drapeau sur les épaules. C'est comme une étreinte collective.
Toutes les télévisions diffusent la cérémonie. Yarden Bibas porte, lui, une kippa orange, clin d'œil aux roues des cheveux de ses enfants et de sa femme à qui il s'adresse. Il parle de la dernière décision qu'ils ont prise ensemble ce 7 octobre. Je t'ai demandé, on se rend ou on se bat ? Tu m'as dit, on se bat. Et il demande pardon de ne pas avoir su les protéger. Devant l'écran géant, place des otages à Tel Aviv, des milliers de personnes. Et dans les têtes, cette question sans réponse que pose Judy. Est-ce qu'on aurait pu éviter cela ?
C'est tellement triste que ça se soit terminé comme ça. C'est tellement triste que nous n'ayons pas réussi à les ramener en vie quand c'était encore possible.
Au loin, des explosions, des exercices, précise l'armée. Dans cette région, le recueillement ne dure jamais longtemps.
Merci Simon Le Baron en direct d'Israël avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. En Ukraine, de nouvelles frappes russes ce matin. Elles ont tué au moins 5 personnes dans la ville de Konstantinivka. C'est dans l'est du pays et dans d'autres frappes, une attaque de drone, cette fois dans la région de Kiev. C'est une journaliste ukrainienne qui a été tuée, indique son employeur. L'expression du matin au Vatican, c'est nuit tranquille. Hier, c'était bon repos. Voilà les mots choisis par les proches du pape pour décrire l'état de santé de François, toujours hospitalisé depuis 12 jours maintenant, dans un état critique après une double pneumonie. C'est la plus longue hospitalisation de son pontificat. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Vous êtes en direct de la place Saint-Pierre à Rome. Hospitalisation, Bruno, qui aura, quoi qu'il arrive, des conséquences.
Oui, cette place Saint-Pierre où des panneaux appellent à se rassembler pour prier pour la santé du pape à 21h, c'est le cas tous les soirs désormais depuis lundi. En ce qui concerne la santé, on attend les résultats d'un scanner thoracique dans les heures à venir qui dira si enfin le traitement antibiotique fait effet contre l'infection sévère dont souffre le pape. Les conséquences en effet, c'est cette question qui est désormais ouverte. S'il sort de l'hôpital, est-ce que le pape à court ou moyen terme devra démissionner ? 88 ans, une santé plus que fragile, est-ce qui a relancé cette hypothèse ? C'est l'annonce faite hier d'un consistoire, le rassemblement de cardinaux. C'est François qui a demandé cela depuis son hôpital. Consistoire pour la béatification et la canonisation d'une série de personnalités. C'est exactement le moyen qu'avait choisi et à l'issue d'un consistoire de ce type-là que Benoît XVI avait présenté sa démission. Ça ne veut pas dire que François fera la même chose, mais chacun ici s'interroge sur l'urgence qu'il y avait à réunir ce consistoire pour parler de la canonisation d'une série de personnalités qu'attendent parfois depuis des années, voire des décennies, cette canonisation.
C'est un épisode, vous nous l'avez dit Bruno, inédit pour ce pape. Racontez-nous un peu les coulisses, comment est-ce que vous travaillez ? Le Vatican semble jouer la transparence. Bruno Duvic en direct de Rome. On a perdu Bruno, on va essayer de le retrouver dans quelques minutes pour savoir un peu comment il arrive à trier, notamment entre toutes ces informations autour de l'état de santé du pape hospitalisé depuis maintenant 12 jours. Et ce changement, avant de retourner à Rome, ce changement passé un peu inaperçu, mais majeur pour les sportifs et notamment les sportives. Dans les clubs de gymnastique artistique féminine, les gymnastes pourront désormais porter des shorts. Jusqu'ici, elles étaient obligées de concourir en juste au corps, sous peine découpée d'une pénalité de 0,3 points sur leur note finale. Il fallait demander une dérogation. Maintenant, le short sera accepté sans aucune requête spécifique. Et Mathieu Bonnour, c'était un changement attendu de longue date par les sportives.
Un petit bout de tissu de 10 cm, voilà la taille des shorts autorisés au-dessus du juste au corps des gymnastes.
C'est pas évident pour tout le monde de se montrer.
Karine Hugon est présidente d'un club de gymnastique à Saint-Nazaire avec plus de 370 adhérents.
Surtout en période de transformation corporelle. C'est comme si on était en maillot de bain, hein. Il y a beaucoup de regards sur elle. Hein.
Décision prise par la Fédération française de gymnastique, dirigée par une femme pour la première fois dans son histoire. Une nouvelle règle saluée par Émilie Koenig, présidente d'un club de gymnastique parisien.
Quand il y a les règles qui arrivent, c'est vrai que c'est un short, c'est quand même plus appréciable que d'être juste en juste au corps.
Et la pratique sera plus agréable pour toutes les gymnastes au moment de leur passage.
Sans avoir toujours l'idée de est-ce qu'il y a quelque chose qui va dépasser, est-ce qu'on va avoir quelque chose.
Raphaël Rémy-Leleu, conseillère de Paris et militante écoféministe, y voit plus de liberté pour les femmes dans le sport, plus d'égalité aussi.
Typiquement, les hommes peuvent être en short depuis des décennies. Il n'est arrivé à l'esprit de personne de les mettre en juste au corps. C'est simplement une forme de rétablissement et d'évolution qui va dans le bon sens.
Preuve de l'importance de la question des menstruations, une adolescente sur deux arrête le sport à cause de ces règles d'après une étude menée il y a 2 ans.
Explication Mathieu Bonnour, le cinéma.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
Elle est tout jolie, mes fesses.
Et les conseils, les coups de cœur, mais aussi les tacles d'Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme.
Vous nous conseillez cette semaine un film américain nommé aux Oscars. Ça s'appelle A Real Pain.
Our grandma is from here, so Dave arranged for us to join this geriatric Polish tour with you fine people.
Jesse Eisenberg, vous savez, le Mark Zuckerberg de The Social Network, est devant et derrière la caméra de cette comédie dramatique tournée en Pologne. Les New-Yorkais David et Benji Kaplan sont deux cousins qui se rendent pour la première fois dans le pays d'origine de leur famille pour participer à la visite guidée d'un camp de concentration. Un voyage initiatique qui va évidemment chambouler nos deux héros déjà totalement névrosés. La meilleure idée du film est peut-être d'avoir confié le rôle de Benji à Kieran Culkin, star de la série Succession, et qui livre ici une prestation magistrale qui lui a d'ailleurs récemment valu un Golden Globe.
Vous êtes moins convaincu par Queer de l'italien Luca Guadagnino.
Oui, le réalisateur de Challengers et de Call Me By Your Name adapte le roman du grand William Burroughs, l'histoire très autobiographique de Lee, un écrivain gay et toxicomane qui erre dans les rues de Mexico.
I mean, spending time with him. I can't tell.
Well, could always just ask.
No.
Dans le rôle de Lee, Daniel Craig, en mode Destroy, propose une interprétation à l'opposé de son rôle de James Bond, car tout est un peu comme ça dans Queer, un des acteurs à contre-emploi, des scènes provoques, une image vintage, des tripes hallucinées et malaisants, bref, des arguments marketing et une esthétique clipesque fort bien exécutée, mais qui manque de profondeur et qui sont surtout bien éloignés, il me semble, de la démarche de Burroughs et de la Beat Generation.
Daniel Craig, dont vous pouvez retrouver l'interview par Hélène Philly sur le site d'Inter. En salle également, Alexis, aujourd'hui, un road movie à la française.
À bicyclette avec un point d'exclamation est un vrai faux documentaire sur deux quinquas qui partent à vélo jusqu'en Turquie pour rendre hommage au fils suicidé de l'un d'entre eux.
On va pas s'arrêter là, allez viens !
J'en peux plus.
C'est la première fois que je fais un truc par amitié, vraiment.
Le comédien Mathias Mlekuz nous entraîne ici dans une aventure cathartique puisqu'il se met en scène dans son propre travail de deuil en refaisant, en compagnie de son ami Philippe Rebaud, le voyage que son fils avait effectué peu de temps avant sa mort. C'est souvent touchant, parfois très drôle, parfois un peu naïf aussi. Mais au-delà du thème du deuil, À bicyclette ouvre, plus ou moins inconsciemment, une réflexion sur la masculinité. C'est peut-être là que ce petit et modeste film est le plus intéressant.
Quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis ?
Yokai, le monde des esprits, avec la reine Catherine Deneuve dans le rôle d'une chanteuse qui part au Japon pour un dernier concert. La vie devant moi, un drame historique signé Nils Tavernier sur fond de rafle du Veldiv. Et je vous signale aussi la ressortie en salle de 5 films restaurés de Julien Duvivier, 5 chefs-d'œuvre des années 30 et notamment Pépé le Moko avec Jean Gabin dans le rôle d'un mafieux qui se cache dans la Casbah d'Alger.
Merci Alexis Demeyer pour ses conseils. Nous étions en ligne avec Bruno Duvic à Rome en direct. Il y a une minute, nous avons perdu la communication. On a du mal à la retrouver. On le retrouvera demain dans Stress 14 pour qu'il nous explique comment il travaille en ce moment autour de l'état de santé du pape François. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Puis à partir de 13h30, Sonia Bonpastor avec nous. Elle raconte une vie de foot dans un livre qui vient de sortir. Comment elle a réussi comme joueuse, puis comme entraîneur. Pourquoi elle a longtemps caché sa relation avec sa compagne Camille Abili, elle aussi joueuse de l'équipe de France. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton avec ces comédiens français qui doublent les stars américaines. Qui est avec nous aujourd'hui?
Je suis Brad Pitt et je suis sur France Inter.
et on vous retrouve dans quelques minutes. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Fabrice Trappier du 1 Hebdo et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Patrice, vous êtes inspiré par la nature.
Oui, je vais vous parler aujourd'hui de la nature. Qui veut l'exploiter? Qui veut la préserver? En fin de compte, à qui appartient-elle?
Intéressante question. Et avec vous, Frédéric, un comédien.
Mark City, que l'on peut applaudir actuellement dans Le Voyage de Polaès. C'est au Théâtre du Petit Montparnasse à Paris. Avec lui, c'est le prince que nous parlerons. Il a eu la chance de le voir plusieurs fois en concert. Et la chanson qu'on écoutera, c'est God.
En toute modestie. Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Arrivée d'une perturbation sur le Nord-Ouest.
Oui, ça, chaque jour sa perturbation, celle d'aujourd'hui s'est déjà infiltrée sur la Bretagne et la Basse-Normandie et va lentement se décaler vers l'Est pour atteindre la Haute-Normandie et les Pays de la Loire. Puis en deuxième partie d'après-midi, les Hauts-de-France, le bassin parisien et la Touraine. En fin de journée, ce sera autour du Poitou-Charentes et du Centre-Val de Loire. À l'avant de cette perturbation, les éclaircies vont s'effacer et les nuages vont se multiplier entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine et l'Île-de-France. Des éclaircies reviendront par la Bretagne, le ciel sera aussi partagé en allant vers les Pyrénées et les régions de l'Est. Quelques averses résiduelles pourront tarder à se dissiper entre l'Alsace et les Alpes du Nord, avec des limites plus neige vers 800-900 mètres d'altitude. Et puis l'instabilité sera plus marquée en Corse et il faut s'attendre à des orages, notamment sur la façade Est. En revanche, sur le Languedoc-Roussillon et la Provence, c'est le soleil qui vous attend cet après-midi, avec le Mistral et la Tramontane. Les températures maximales perdent quelques degrés sur la moitié Est. On garde tout de même des valeurs proches des normales de saison, avec 9 à 14 degrés cet après-midi. Prévoyez 11 degrés à Paris, Lille, Strasbourg et à Lyon. Dans les régions du Sud, on pourrait même atteindre jusqu'à 16 degrés à Montpellier et Bastia.
Merci Sébastien Léas, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Sonia Bonpastor.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes en direct de Londres, puisque vous êtes depuis le début de la saison entraîneur du club de football de Chelsea, qui est l'un des meilleurs clubs d'Europe. Et vous racontez votre parcours de Toury, près de Blois, où vous avez commencé à jouer. Faut jamais oublier où ça commence, jusqu'au sommet du foot européen. Première et seule femme vainqueur de la Ligue des Champions en tant que joueuse, puis entraîneur. Vous racontez cette vie, ce parcours dans un livre intitulé « Une vie de foot ». C'est aux éditions Artaud. On va parler ensemble de sport de foot, mais pas seulement. 01 45 24 7000 pour les auditeurs qui veulent vous interroger et qui passent également par l'application France Inter. Est-ce que vous êtes heureuse, Sonia Bonpastor? On entend souvent que l'Angleterre, c'est le paradis pour le foot masculin comme féminin. Est-ce que c'est vrai?
Oui, écoutez, en tout cas, beaucoup de bonheur et je suis très heureuse ici en Angleterre. J'entendais un petit peu votre météo avant qu'on puisse être en communication et c'est un petit peu le cas ici aussi. Il pleut pas mal, mais en tout cas, au niveau du foot, tout se passe bien et je suis très heureuse, effectivement.
Ça ressemble à quoi le foot féminin en Angleterre? Quelle différence par rapport à la France en termes de moyens, en termes de public?
Écoutez, je pense qu'en Angleterre, ils ont réussi à surfer sur la vague de l'Euro qu'elles ont réussi à remporter avec leur équipe nationale en 2022. Et depuis, en fait, il y a des personnes ici, au niveau politique, mais aussi les partenaires commerciaux, les sponsors, qui croient énormément au football féminin et qui, sur l'aspect financier, investissent. Ça donne un résultat plutôt positif, puisque je pense qu'aujourd'hui, l'Angleterre a certainement la ligue la plus compétitive au monde, avec peut-être les États-Unis. Et aujourd'hui, voilà, les meilleures joueuses sont attirées ici en Angleterre. On a une ligue compétitive, comme je disais, mais aussi beaucoup de propriétaires qui investissent dans les infrastructures. Il y a un public qui vient nombreux aussi pour assister
ces matchs-là.
Nombreux, on a eu quelques matchs déjà depuis le début de la saison sur les grosses affiches avec 55 000, 35 000, 45 000.
Ah oui.
Donc, ouais, voilà, ça change un petit peu, effectivement, de ce qui peut se faire en France. Mais je pense que la différence principale, elle est surtout sur le plan culturel, où vraiment aussi, on sent que les gens sont culturellement passionnés par le football. Et peu importe l'équipe qui joue, en fait, quand ils supportent un club, ils viennent voir toutes les équipes du club.
Et quand on est coach, il y a plus de pression qu'en France ?
Non, je pense que la pression des résultats, elle est pareille. Vous savez, quand vous coachez l'OL ou Chelsea, vous le disiez, voilà, ces deux clubs figurent parmi les meilleurs clubs européens. Donc la pression du résultat, elle existe. Après, c'est sûr que c'est... On prend beaucoup plus de plaisir quand on joue devant des stades avec un public nombreux. On fait aussi ce métier-là pour ces raisons-là.
J'ai lu, Sonia Bonpastor, que Chelsea avait été le premier club à adapter le rythme des entraînements aux périodes de menstruation des femmes. C'est aussi un club qui est plus à l'écoute que d'autres ?
Non, enfin, en tout cas, oui, sur ce sujet-là, ils ont été précurseurs. C'est vrai que Chelsea accorde beaucoup d'importance à la femme. Je le disais aussi dans certaines interviews, quand je suis arrivée ici, en fait, ils ont été très clairs. Quand Emma Hayes est partie, elle a fait 12 ans à la tête du club.
L'ancienne coach ?
Exactement, c'est l'ancienne coach. Et du coup, leur priorité, à même niveau de compétence, c'était de recruter une femme. Donc, c'est des choses qu'ils affichent de manière très claire. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable. Donc, pareil, sur le soutien et le support qu'ils peuvent apporter aux joueuses, ils font en sorte, en termes de performance, de ne rien laisser au hasard.
Londres, c'est une ville avec laquelle vous avez une histoire particulière. Vous le racontez dans ce livre. 2011, vous y remportez la Ligue des Champions comme joueuse. Avec Lyon, c'est la première pour un club français. Vous pouvez nous raconter ce jour et notamment vos chaussures, Sonia Bonpastor.
Oui, c'est vrai que beaucoup de monde me parle de cette anecdote parce que c'est pas si lointain que ça. Et pourtant, voilà, c'était certainement le jour le plus important de ma carrière de joueuse, une première finale de Ligue des Champions. Et en fait, l'outil le plus important, qui sont les chaussures de foot, était complètement pas adapté. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, voilà, ça fait beaucoup sourire. Sur le coup, encore une
fois,
parce
que vous avez des petits pieds.
Oui, exactement. En fait, je fais du 37 et c'est vrai qu'à l'époque, les équipementiers ne prévoyaient pas les chaussures haut de gamme, on va dire, à cette pointure-là.
Les visser avec des gros crampons quand le terrain est détrempé.
Ouais. Surtout en Angleterre, voilà, quand il pleut beaucoup et qu'il faut mettre des crampons plus adaptés.
Les chaussures sont adaptées aujourd'hui pour les joueuses ? Les équipementiers ont fait des efforts ?
Oui, oui, ouais. Il y a eu énormément de progrès à beaucoup de niveaux, notamment celui-ci. Aujourd'hui, voilà, les joueuses, en tout cas les meilleures joueuses dans les meilleurs clubs, ont des chaussures complètement adaptées à leurs pieds en termes de pointure, mais aussi, voilà, il y a des prises de mesure qui sont très individuelles. Et c'est vrai qu'il y a eu de vrais progrès qui ont été faits, il faut le souligner.
Vainqueur donc de la Ligue des Champions en tant que joueuse, vous nous rappelez qui vous remet la coupe ce jour-là ?
Michel Platini. Ouais.
Qui vous glisse un petit mot.
Oui, oui, oui. Du coup, il me dit très amicalement qu'il est heureux de remettre la coupe déjà à une équipe française et à une capitaine française. Donc voilà, il est très fier de ça.
Joueuse, vainqueur de la Ligue des Champions, vous allez ensuite la remporter comme entraîneur avec Lyon, avant de rejoindre donc Chelsea depuis le début de la saison, où vous partagez le banc avec Camille Abili, autre très grande championne du foot français, qui a été votre coéquipière, qui est donc votre adjointe et qui est aussi votre compagne. Vous le révélez dans le livre. Et ça, un couple sur un banc, je crois que c'est du jamais vu, Sonia Bonpastor.
Oui, peut-être que c'est du jamais vu, même si nous, on ne se voit pas comme un couple quand on est sur le banc, bien évidemment. Voilà, c'est nos métiers et du coup, on sait faire la part des choses. Mais par contre, vous voyez de plus en plus quand même dans les staffs beaucoup d'entraîneurs numéro un qui s'entourent de leurs très proches. Vous avez l'exemple de Will Steele qui travaille avec ses frères. Vous avez
entraîneur de Ligue 1.
Oui, entraîneur de Ligue 1, excusez-moi. Du coup, vous avez Carlo Ancelotti aussi, qui a son fils dans le staff en tant que préparateur athlétique au Real Madrid. Donc voilà, dans les très grands clubs, c'est des choses qui se font quand même de plus en plus. Et ça se fait surtout par rapport à la notion de confiance. Je pense que voilà, à ce niveau-là, c'est très important.
Mais comment vous faites ? Vous arrivez à scinder les deux ? On ne parle pas de foot à la maison avec les enfants ?
Non, oui, c'est ça. En fait, je pense que notre plus gros point fort, c'est qu'on sait faire la part des choses. En fait, aujourd'hui, quand on est au travail, voilà, c'est Camille l'entraîneur, Sonia l'entraîneur. Et effectivement, on fait la part des choses en rentrant à la maison. De toute façon, en ayant quatre enfants, ça laisse pas beaucoup de place au foot. En tout cas, les enfants sont vite lassés. Ils veulent vite qu'on parle d'autre chose. Donc voilà, ça nous permet de couper et c'est idéal.
Vous vous êtes rencontrés très jeune. Vous aviez 20 ans, elle en avait 16. Et puis plus tard, vous êtes tombée amoureuse et vous n'en avez jamais parlé à personne jusqu'à ce livre. Vous étiez deux des joueuses les plus connues de France, mais vous avez voulu garder ça pour vous. Vous dites dans le livre que ce furent 13 années de mensonges. Pour quelle raison ?
Non, tout simplement parce que je pense qu'on est deux personnes très discrètes dans notre vie de tous les jours, mais aussi très pudiques. Pour le coup, l'écriture de ce livre fait voler en éclats toute la pudeur qu'on peut avoir. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on s'est beaucoup exposé. Mais voilà, ce livre, je le dis, je l'écris avant tout pour laisser une trace aussi à mes enfants. Et c'est difficile, quand on écrit un livre, d'occulter ce passage de ma vie, dont je suis quelque part très, très fière. Mais ce n'est pas forcément une volonté personnelle, encore une fois, de se mettre en avant sur cet aspect-là. Même si, voilà, oui, Camille est ma compagne dans la vie de tous les jours et j'en suis fière. Mais voilà, on aime aussi garder un peu de discrétion et de pudeur par rapport à ça, même si, encore une fois, c'est difficile quand on écrit ça dans un livre.
Mais ça veut dire que vous vous êtes caché pendant toutes ces années, y compris de vos coéquipières, qu'il n'y avait pas de mots tendres, de gestes tendres en public ?
Non, 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 en fait, c'est pas le cas encore aujourd'hui, parce que, comme je le disais, on fait la part des choses. Après, c'était un secret bien gardé pour certaines personnes, peut-être pour d'autres, il y avait quand même des soupçons bien avérés. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on n'évoquait pas et qu'on ne souhaitait pas évoquer pour plusieurs raisons.
Vous pensez que c'est le cas aujourd'hui pour d'autres joueuses, comme vous, dans des clubs qui hésitent à le dire ?
Oui, j'imagine que très certainement il y a d'autres personnes qui sont dans ma situation. Après, les choses ont quand même pas mal évolué au niveau de la société. Après, ce que moi je souhaitais avant tout mettre en avant, c'est le fait qu'en 2025, il serait bien que les gens aient une ouverture d'esprit pour accepter la différence. Là, on parle de la sexualité, mais c'est vrai que voilà, la différence dans la couleur de peau, la différence au niveau des religions, c'est surtout ça en fait qui aujourd'hui est important à nos yeux. Mais effectivement, à travers ce livre, j'ai reçu quelques messages de personnes qui j'ai reçu quelques messages de personnes qui m'ont témoigné avoir vécu la même situation, avoir à travers mon exemple aussi s'être servi de ça pour pouvoir avoir un peu de courage et avancer. Donc il y a différents témoignages et parfois c'est vrai qu'on se dit le bonheur est vraiment ce qu'il y a de plus important et parfois c'est difficile de pouvoir révéler certaines choses.
Alors, vous retracez votre parcours dans ce livre. Vous parlez notamment de vos idoles. Il y a un joueur que vous croisez à Clairefontaine quand vous êtes toute jeune. Lui, il joue avec l'équipe de France masculine à cette époque. Vous vous souvenez de qui je veux parler ?
Oui, Bichente Lizarazu, champion du monde, effectivement.
Alors, vous allez nous parler de cette rencontre dans une minute. D'abord, je voudrais qu'on écoute le consultant pour TF1 et France Inter. Bah oui, c'est Bichente Lizarazu, c'est magique, il a un message pour vous.
Salut Sonia, c'est Bichente Lizarazu. Ce petit message pour te dire que j'étais très touché par tes mots dans ton livre, de savoir que j'ai pu être une source d'inspiration pour toi. Et je voulais te dire que j'étais aussi très admiratif de ton parcours. Voilà, à la fois comme joueuse et puis maintenant dans ton métier d'entraîneur. Le défi que tu viens de te lancer en Angleterre, à Chelsea, c'est fantastique. Je vais te suivre de très très près. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir bientôt. Allez, salut, je t'embrasse.
Réaction, Sonia Bonpastor ?
Ah, c'est émouvant. Ça met presque quelques larmes aux yeux parce que, comme je le disais, c'est vrai qu'en grandissant, j'ai eu beaucoup de modèles masculins. Et effectivement, Bichente en faisait partie en tant que footballeur. Je pense que je m'identifiais beaucoup à lui parce qu'on avait un poste similaire sur le terrain et aussi des caractères similaires. Donc, il m'a beaucoup inspiré tout au long de ma carrière. Et c'est touchant de voir que, à son tour, il suit un petit peu mon parcours.
Il a été un exemple pour vous. L'exemplarité, est-ce que c'est quelque chose à quoi vous pensez dans votre activité tous les jours ? J'ai l'image du président de l'OM là, ce week-end à Auxerre qui crie à la corruption, qui insulte les arbitres, etc. On a fait un reportage où on voyait l'impact que ça pouvait avoir sur les jeunes, ce type de comportement. Est-ce que vous y pensez ?
Oui, en tout cas, comme vous le disiez, en fait, on est des leaders, on est des exemples. Et on se doit, dans notre vie de tous les jours, sur le terrain, mais aussi en dehors, de montrer l'exemple, justement. Et effectivement, ce qui est parfois difficile, c'est que vous vivez dans des environnements où il y a des émotions et on reste des êtres humains. Mais à un moment donné, on sait aussi qu'on est très exposé et que beaucoup de gens nous regardent, donc dans le positif comme dans le négatif. Donc, on se doit, dans les moments un peu plus négatifs, où les émotions peuvent être négatives, d'essayer de gérer tout ça au mieux pour montrer un bel exemple.
Alors, vous parlez des présidents de club que vous avez rencontrés, Louis Nicolin, Jean-Michel Aulas, notamment. Il y a votre parcours, il y a votre vie et il y a votre maman qui a quitté très jeune le Portugal pour la France et qui est morte quand vous aviez un petit peu plus de 20 ans. Je suppose que vous lui devez une grande partie de votre parcours et que vous avez peut-être aussi un peu écrit ce livre pour elle et en pensant à elle.
Oui, c'est encore aujourd'hui quelque chose de très difficile pour moi parce qu'elle est partie de manière très brutale. Je le raconte d'ailleurs dans le livre. Oui. J'ai pas eu le temps de lui dire au revoir et je m'en suis beaucoup voulu parce que à un moment donné dans mon adolescence, j'ai cru en tout cas avoir fait passer le football avant elle. Et c'est vrai que voilà, son décès a été quelque chose de très difficile à vivre pour moi. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'évoque avec mes enfants. Mais voilà, de suite, les émotions remontent et c'est très difficile. Mais voilà, je suis voilà, très fière d'avoir eu cette maman parce que le peu de temps qu'on a pu partager ensemble, elle m'a énormément appris. En tout cas, elle m'a beaucoup soutenue et elle m'a montré la voie. Aujourd'hui, moi-même, je suis maman et il y a des choses qu'elle me disait qui résonnent complètement. Et je me dis, voilà, ouais, je comprends maintenant pourquoi elle me disait ça. Mais je me dis toujours que voilà, j'espère que de là-haut, en tout cas, elle est fière de moi.
Elle peut l'être de ce parcours raconté donc dans ce livre, Une vie de foot. C'est chez Artaud. Merci Sonia Bonpastor. Je voudrais qu'on ait une pensée aussi pour Eugénie Le Sommer, que vous avez suivi hier soir. Oui, 199 sélections maintenant, la joueuse internationale française la plus capée, c'est impressionnant.
Ouais, c'est impressionnant. Après Eugénie, j'en profite pour la féliciter en public, même si je l'ai fait aussi à titre individuel. Ouais. Mais ouais, on parlait d'exemple tout à l'heure. Eugénie, c'est un exemple à suivre. Mmh. C'est vrai que voilà, elle a une mentalité vraiment de gagnante. Voilà, ça vient récompenser toute la longévité de sa carrière. Elle n'est pas terminée, mais en tout cas, voilà, quelle joueuse et quelle personne aussi.
Merci Sonia Bonpastor d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui dans ce 13-14 sur France Inter.
Merci à vous.
Une semaine dans la vie des comédiens de doublage. Troisième épisode, nous étions en début de semaine avec la voix française de Julia Roberts. Aujourd'hui, le comédien Jean-Pierre Michael, autre grand nom de la profession, voix française de Brad Pitt et de bien d'autres. Mais comment fait-il pour passer de l'un à l'autre ?
Pour faire du doublage, il faut être comédien. Donc savoir maîtriser nos émotions, savoir comment les exprimer, puisqu'ensuite le but dans le doublage, c'est de repérer ce que font les acteurs pour reproduire leur propre jeu et leurs propres émotions. Bonjour, je suis Jean-Pierre Michael, comédien, et je suis la voix de plusieurs comédiens que vous devez connaître, américains, dont Brad Pitt, Keanu Reeves, Ben Affleck, Jude Law, Ethan Hawke, Michael Fassbender et d'autres. Tous autant que vous êtes, vous me fournirez 100 scalpes nazis prélevés sur la tête de 100 cadavres nazis, jusqu'à en crever s'il le faut.
Alors ça, c'est quel film ?
Ça, c'est Inglourious Basterds, de Tarantino, avec Brad Pitt.
Alors, on essaye un Keanu Reeves ?
Keanu Reeves, alors, dans Matrix, donc ça peut donner... Je montrerai à ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi, ni contrôle, sans limites, ni frontières. Un monde où tout est possible.
Comment vous faites pour passer de l'un à l'autre ?
Absolument rien. C'est exactement ma voix. Je la trafique pas. La seule différence, c'est eux. Et c'est dans leur rythme, plus posé, plus énergique. Donc j'essaye de les suivre et de les accompagner le plus fidèlement possible. Mais essentiellement, je ne change rien.
Comment on devient la voix française de comédien pareil ?
Par hasard. Moi, sur Brad Pitt, je commençais, j'étais à la Comédie Française à ce moment-là, j'étais au théâtre tous les soirs et on m'a demandé un jour de venir passer des essais. J'ai passé des essais qui n'ont absolument rien donné, j'ai poireauté pendant 6 mois, je n'ai eu aucun appel. Et un jour, on m'a rappelé en me disant, ben voilà, j'ai un petit film avec un rôle à faire, est-ce que tu veux bien, est-ce que ça t'intéresserait ? J'ai dit, ben oui, carrément. Et je me suis retrouvé à doubler donc, un rôle Alfred Molina dans La Mutante et ça s'est très bien passé. Juste à ce moment-là, sortait un film avec Brad Pitt et Harrison Ford qui s'appelait en anglais Devil's Own. C'était un film que le studio dans lequel je travaillais venait de recevoir. Ils m'ont dit « Est-ce que tu veux pas passer des essais ?» sur le petit jeune, là, Brad Pitt, qui n'était pas encore une méga star, mais qui commençait à être très connu. Ça s'est très bien passé, ils m'ont validé, donc j'ai fait ce film. Et puis ça s'est enchaîné, voilà.
Donc ça veut dire que c'est pas contractuel ?
Absolument, je n'ai absolument aucun contrat avec Brad. Brad, si tu m'écoutes, il faut qu'on en parle. Je ne l'ai jamais rencontré. Donc si demain, un studio décide de me changer, il peut en avoir l'opportunité.
Let no man forget how menacing we are. We are lions.
Montrez notre férocité, montrez à l'humanité qui nous sommes des lions.
Le doublage, c'est une forme de karaoké, c'est-à-dire que vous avez le film qui passe, et tout le film a été réécrit, les dialogues en français et adaptés en français par rapport à l'anglais, et il défile sous l'image avec une barre, comme au karaoké, et lorsque le texte passe sur cette barre, il faut l'interpréter.
Comment vous faites pour vous projeter? Parce que contrairement aux comédiens qui tournent le film, vous n'avez pas le décor, vous n'avez pas forcément les partenaires avec vous, vous êtes plutôt statique face à un écran.
Eh bien, on vit tout dans un mètre carré. Et on fait une guerre de 14 dans un mètre carré, on fait l'amour dans un mètre carré, on fait tout dans un mètre carré, et on a déjà l'image qui nous renseigne beaucoup sur ce que fait le comédien et sur ce qu'il est en train de vivre. Et nous, ensuite, on doit essayer de se projeter dans cet état-là. Il n'est pas en train de se prendre une balle, il joue qui prend une balle, ben nous, on joue qu'on prend une balle pour lui.
Feuilleton signé Cécile Bideau, réalisation Stéphane Ronxin, la suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h49 le mercredi avec le 1 Hebdo et aujourd'hui Patrice Trappier. Patrice, vous nous parlez de notre relation avec la nature.
Oui Jérôme, en vacances d'hiver, certains de nos auditeurs sont peut-être en train d'explorer la montagne à ski ou en raquette, d'arpenter des sentiers forestiers ou des chemins de bord de mer. Et si l'on tend l'oreille, on peut même deviner les premiers chants d'oiseaux et rêver que le printemps n'est plus très loin. Mais au fait, à qui appartient la nature ? Aux propriétaires fonciers qui possèdent les trois quarts de la forêt française, aux agriculteurs, aux collectivités, aux aménageurs touristiques qui exploitent la montagne sans pour autant la clôturer, aux États propriétaires du ciel ou à l'humanité détentrice symbolique des océans au-delà des eaux territoriales ?
Les réponses ne sont pas évidentes.
Non. Elles sont toutes à la fois juridiques, philosophiques et elles ont beaucoup évolué avec le temps. Les conflits d'appartenance remontent loin dans notre histoire. À partir du XVIe siècle, en Angleterre, les paysans pauvres ont été interdits de pâturage par les propriétaires fonciers. Et ce mouvement des enclosures s'est largement répandu. Au XIXe siècle, sous le Second Empire, l'État français a même commis un véritable hold-up en s'emparant des pâturages des Landes pour en faire une forêt de pins. Mmh. La Société des loisirs a engendré de nouveaux conflits d'usage. La nature n'est pas à tout le monde, estimait le patron des chasseurs Willy Schran, après plusieurs incidents avec des randonneurs. Depuis un an, les propriétaires d'espaces naturels ont l'obligation d'ouvrir leur grillage pour laisser passer les animaux sauvages, mais ils peuvent aussi interdire l'accès aux promeneurs. Quant au GR34 qui fait le tour des côtes bretonnes, il est interrompu sur plusieurs kilomètres par les propriétés des sieurs Bolloré, Tétinger ou Michelin. Soyons justes, certaines fermetures peuvent être justifiées par la montée des incivilités, des charges sauvages, risque de départ de feu, mais nous pourrions méditer l'exemple de la Suède où le droit d'accès à la nature est inscrit dans la Constitution.
Les préoccupations environnementales ont-elles ces dernières années changé notre rapport à la nature ?
Très largement. Longtemps, nous avons été les bons disciples de Descartes en nous rendant comme maîtres et possesseurs de la nature. Cette soumission des éléments à la volonté humaine est à la base de la société industrielle qui est aujourd'hui atteint ses limites. La nature peut-elle s'émanciper de la tutelle des hommes ? C'est le sens d'un mouvement né en Amérique latine qui veut donner à des lacs, fleuves, forêts, une personnalité juridique des droits. C'est le cas depuis 2022 d'une lagune d'eau salée en Espagne et des pétitions circulent pour doter la Garonne et la Seine d'un statut similaire. De son côté, l'anthropologue Philippe Descola récuse toute séparation, tout dualisme entre la nature et la culture. Avoir chassé les agro-pasteurs et leurs pratiques raisonnées pour édifier les parcs naturels en Afrique n'a conduit qu'à des catastrophes humaines et écologiques. La question, ce serait plutôt de rechercher un équilibre entre humain et autre qu'humain. C'est le mot de Descola et c'était déjà la prophétie en 1965 de l'écrivain Bertrand de Jouvenel qui écrivait « Nous devons cesser d'être les pillards habiles, irresponsables des ressources naturelles pour devenir gardiens de notre demeure terrestre ». Au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, l'illustratrice Catherine Meurice a trouvé refuge dans la ferme de son enfance, dans le Marais Poitevin. Uh-huh. Ce retour aux sources lui a permis d'explorer une nouvelle harmonie entre nature et culture. Elle en a tiré deux immeubles remarquables, la légèreté et les grands espaces.
On la retrouve dans le 1 ?
Oui, pour notre numéro du 1. Elle nous a offert deux magnifiques illustrations dans lesquelles elle imagine une forêt où les animaux nous donneraient, sur un mode ironique, des leçons de civilité. Ici, c'était un chemin possible, accepter d'appartenir à la nature plutôt que de revendiquer des titres de propriété.
À qui appartient la nature ? Vaste question, aussi vaste que la nature, c'est la question que vous posez cette semaine dans le 1 Hebdo. Merci Patrice Trappier de C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est un comédien, Marc City, que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Aux côtés de Julie Delarme, il est à l'affiche du Petit Montparnasse à Paris dans Le Voyage de Paula S, pièce dont il signe aussi le texte. Et c'est de Prince qu'il a choisi de me parler.
Je l'ai découvert à peu près au milieu des années 80, à la fin des années 80, comme beaucoup de gens, hein, avec l'album Purple Rain, et puis ensuite j'ai réécouté ce qui s'est passé avant. Ouais. Et c'était quand même très fort, là, tout à coup, ce garçon là, qui électrisait toute la planète à coups de reins, groovy, et espèce de funk pop très luxuriante, comme ça. Et c'était un personnage merveilleux. En plus, à mon avis, un immense guitariste. Peut-être un des meilleurs. Et puis un multi-instrumentiste, et puis un mélodiste incroyable, et un homme de scène qu'il a toujours été jusqu'au bout, quoi. Je l'ai vu sur scène plusieurs fois.
Ça ressemblait à quoi, un concert de Prince ?
C'était assez clinquant, mais de toute façon, Prince, c'était assez clinquant. Ça allait avec son personnage, quoi. Il y avait une voiture qui arrivait sur scène, très à l'américaine. Mais il y avait quand même une performance de tout le groupe, parce que ça jouait incroyablement bien, hein, Prince. Cet homme jouait avec les meilleurs. Et... Je suis pas fou absolu du funk, ça peut me lasser au bout de 20 minutes, mais celui que Prince proposait sur scène était vraiment étourdissant, quoi. Étourdissant, vraiment. Et puis cette espèce de petit bonhomme, tellement gracieux, gracile, et en même temps puissant. J'étais très jeune en plus, donc très impressionnable et très impressionné.
Ce morceau de Prince, Frédéric, est sorti en 1984. Son titre, c'est God.
Un morceau dans lequel il chante les créations de Dieu qui, dit-il, a fait la terre, la lumière, les hommes, les cieux. Et si Mark City a choisi ce morceau-là, eh bien c'est parce qu'il est lié pour lui à un souvenir très fort de théâtre.
On est en juillet 1988 et j'ai une petite vingtaine d'années. Et je suis sur le plateau de la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon parce que j'ai la chance de jouer dans la mise en scène de Patrice Chéreau de Hamlet. Et Patrice a choisi quasiment exclusivement la musique de Prince pour illustrer le spectacle. Et voilà que s'élève cette mélopée merveilleuse. Et elle est mise sur la scène assez célèbre d'Hamlet de la pantomime des comédiens. Donc nous, les acteurs, on se livre donc à cette pantomime sur cette musique-là. Et on épouse avec nos corps chaque surprise mélodique, chaque cri de Prince. Et c'est vraiment très très merveilleux ce qui se passe à ce moment-là, quoi. Les gens sont attentifs à l'extrême. On a l'impression de délivrer quelque chose de vraiment extrêmement aérien et de magique. Quelque chose de l'ordre d'une communion avec les gens qui sont sur les gradins. Et j'ai l'impression que on était tous chanceux à ce moment-là, les acteurs et les spectateurs.
Une forme de temps suspendu ?
Ouais, de temps suspendu, ouais. C'est exactement ça. Et on aurait presque dit que le morceau avait été composé pour la mise en scène.
Naturellement, on n'associe pas forcément Prince et Shakespeare.
On a tort, parce que c'est pas si loin, je trouve. En fait, dans ce morceau particulièrement, mais un peu dans toute son œuvre, Prince s'est employé, il me semble, à conjuguer deux choses. C'est sinon la religion, du moins la foi, et sinon la sexualité, du moins l'érotisme. Et quand ces deux choses-là sont conjuguées, d'abord c'est toujours une bonne nouvelle, je pense. Et en plus, on a là peut-être une définition possible du théâtre.
L'érotisme et la foi ?
Ouais. Le sacré.
Il n'y a pas beaucoup de paroles dans cette chanson.
Non, il n'y a que de l'air. Et des cris. C'est incroyable. C'est magnifique.
Et vous entendez quoi dans les cris de Prince ?
Ce que je disais tout à l'heure sur cette conjugaison de l'érotisme et du sacré, quoi. J'entends un acte sexuel totalement spirituel. J'entends quelque chose comme ça. Puis c'est très rock. Et puis c'est drôle aussi.
Prince God, c'était donc Frédéric, le choix de Mark City.
Mark City que vous pouvez retrouver en ce moment sur la scène du Petit Montparnasse à Paris dans Le Voyage de Paula S.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme Cadet, bonjour.
Nous parlons des plantes.
Oui, celles qui se déplacent, figurez-vous.
À tout de suite dans La Terre au Carré.